Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café LNH, le balado de LNH.com. Nicolas Ducharme, je vous parle en ce 28 mai. Les finales d'association qui se poursuivent là, à l'heure où on se parle en ce mardi, les Rangers qui ont l'avance 2-1 dans leur série contre les Panthers de la Floride et les Stars de Dallas qui ont pris l'avance 2-1 dans la leur contre les Oilers d'Edmonton. Donc aujourd'hui à l'émission, bien évidemment, je vais être accompagné de Jean-François Chaumont et Guillaume Lepage qui on va parler de tout ça, on va parler de tout ce qui se passe. Bien évidemment, à l'heure qui est le quatrième match qui s'en vient ce soir dans la série dans l'Est. Donc, on discute de tout ça. On va aussi parler des embauches, hein, le carrousel d'entraîneurs, d'embauches d'entraîneurs qui se poursuit avec trois nouvelles embauches dans les dernières heures, derniers jours. Là. Donc, on va parler de tout ça en deuxième portion d'émission. Avant de commencer, je vous invite, chers auditeurs, si vous nous écoutez sur le site web d'LNH.com, on est disponible sur toutes les plateformes de diffusion là, pour nommer Apple, Spotify, Google. Faites une recherche, la tasse de café LNH, vous allez nous trouver. Et abonnez-vous, comme ça, si jamais votre plateforme vous envoie une petite alerte quand il y a un nouveau balado, vous êtes certain de ne pas le manquer. Donc, je les ai nommés il y a quelques secondes, je vous les présente, ils sont avec moi depuis... il fait quelques semaines là, maintenant que vous êtes là régulièrement. Jean-François Chaumont, salut JF.
Bonjour, messieurs.
Et salut Guillaume, comment tu vas?
Ça va très bien, un peu enrhumé, mais on survit.
Les gars, mes grands deux Globetrotters, comment vous allez bien? Mais là, JF, selon ce que tu nous dis à New York, là, fait plutôt chaud là, présentement.
Il faisait chaud à New York jusqu'à temps où tu poses les pieds en Floride et puis tu me dis que là, il fait vraiment chaud. C'est du 34-35 degrés, humidité, c'est vraiment étouffant. Mon hôtel aussi se situe tout près de l'aréna des Panthers, la Amerind Bank Arena. C'est dur de le dire parce qu'il change de nom tous les six mois. Mais ce qui ne change pas, c'est ce qu'il y a à côté de l'hôtel. C'est des quenouilles, des autoroutes, des boulevards et un immense centre d'achat.
Vous donnez une idée. Avec
du parking à perte de vue. Le Sawgrass Mall, c'est l'équivalent du Carrefour Laval sur de grosses stéroïdes. Nomme un magasin, ils l'ont. Donc, tu peux te perdre. Mais honnêtement, le seul bon point... centre d'achat-là, c'est l'air climatisé. Les Américains, ils n'ont pas peur d'y aller à fond avec l'air climatisé. Quand je rentre dans le centre d'achat, mes lunettes, quand j'en ressors, j'ai de la buée. C'est épouvantable comme en thèse. Le contraste de chaleur est vraiment, vraiment frappant.
Oui, en plus, je veux dire, ce coin-là, t'es dans les Everglades. Là. En gros, ils ont drainé un peu les Everglades pour permettre de construire tout ça. Là, mais t'es à quelques pas de te faire mordre par un crocodile, là, un alligator.
Oui, mordre par un crocodile, mais c'est un peu bizarre. T'as l'aréna, leur centre d'entraînement des Panthers à être à une bonne trentaine de minutes maintenant, tout nouveau, tout neuf à Fort Lauderdale. Un très beau centre d'entraînement, d'ailleurs, là, pour les Panthers. Les Rangers, eux, jour de match, veulent pas quitter Fort Lauderdale, leur hôtel où ils sont près de la mer. Donc, ne viennent pas ici pour l'entraînement du matin. Font les dispos médias à l'hôtel, à Fort Lauderdale. C'est un petit peu de logistique couvrir cette série, mais bon, ça fait partie de la réalité floridienne.
Et en même temps, tu te plaignais aussi à New York quand ils te faisaient monter dans le Connecticut.
Oh oui, c'était le train à Tarrytown. On se plaint souvent, c'est notre rôle comme journaliste.
Soyons francs. Là, comme j'ai déjà entendu dire, ça serait le fun, ce job-là, si ce n'était pas de travailler.
Non, absolument.
Il y a des bonnes nouvelles.
Il y a de bonnes nouvelles aussi. Fort Lauderdale, ça reste quand même la solace. C'est magnifique. C'est sur le bord de la mer. Wayne Gretzky a déjà dit que Saint-Louis est une des plus belles villes du monde. Mais je ne sais pas si Wayne Gretzky a déjà dit que le Elbow Room est un des plus beaux bars du monde.
Honnêtement, le nombre de mentions du Elbow Room sur le broadcast de TNT est assez élevé.
Je pense que le père Keith Tkachuk, il doit pratiquement rester au Elbow Room.
il a sa petite tente au deuxième étage.
Là. Exactement. Bon, on peut rentrer dans les choses sérieuses, monsieur.
C'est ça, rentrer dans les choses sérieuses. Bon, bien évidemment, là, t'es out l'entraînement de ce matin et le match de ce soir. Donc, on va parler un peu plus de ce qui s'est passé jusqu'à présent dans la série. Les Panthers qui tirent de l'arrière 2-1, mais soyons francs, ça pourrait être un autre résultat si on avait été capable de soutenir un jeu à 60 minutes, surtout lors du match numéro 3, où on a dû revenir en force là, durant la troisième période. Non, ça a prouvé que si ce n'était pas d'Igor Shesterkin, les Rangers, et pas juste dans cette série-là, là, je maintiens que depuis le début des séries, Igor Shesterkin en deuxième, en troisième période, c'est là qu'il livre la marchandise.
Non, absolument. Igor Shesterkin joue du très bon hockey. Les Panthers pourraient mener cette série 3-0. Surtout le troisième match, 5-4, victoire des Rangers en prolongation. Les tirs tentés, c'était un écart hallucinant. Je crois de mémoire, c'était 108 à 44.
43 même, je crois.
À 43, je pense, pour les Panthers. Donc, on peut croire qu'ils méritaient de gagner. Mais dès que les Rangers ont une réelle chance de marquer, ils sont capables d'en profiter. Et ce qui est peut-être une bonne nouvelle pour les Rangers, c'est qu'ils mènent présentement 2-1 et que trois des canons n'ont toujours pas marqué. Mm-hmm. Artemi Panarin, Mika Zibanejad, Chris Kreider. Je pense pas que tu peux réduire au silence pendant 4 à 7 matchs trois aussi bons joueurs de hockey. Mais il y a d'autres joueurs qui ressortent. Il y en a un qui provient du Québec, de Saint-Eustache, Alexis Lafrenière, qui a connu un troisième match fabuleux. Deux autres buts pour Alexis, c'est maintenant 12 points en 13 matchs. On en parle depuis le début des séries. On répète que le Lafrenière repêché premier au total par les Rangers de New York, mais on commence à voir tout son talent. C'est vraiment l'année de l'éclosion d'Alexis Lafrenière.
Et je disais sur Lafrenière, tu ne seras probablement jamais un marqueur de 100 points dans la Ligue nationale de hockey en saison, mais en séries éliminatoires, on voit que c'est là toute sa valeur. Tu sais, il y a certains joueurs en séries éliminatoires où on dit que t'es taillé pour ça, puis j'ai pas d'exemple qui vient en tête au fil de l'histoire, mais Lafrenière, présentement, là, autant ça avait été catastrophique l'année dernière, autant que cette année, comme tu dis, c'est le coming out party.
Le contraste avec Capo Caco est quand même exceptionnel. Quand même fort. Là, honnêtement, on parle de deux hauts choix au repêchage.
Je me suis accroché à Capo Caco dans mon pool de hockey jusqu'à tout récemment, mais malheureusement, ces séries éliminatoires-là viennent un peu de d'enfoncer le dernier clou. Là.
Mais c'est fou de constater que ce joueur-là repêché aussi haut, dans un moment aussi important de T'sais, les Rangers sont rendus à l'étape où il faut gagner, puis ce choix de repêchage-là se retrouve dans les gradins. Là. C'est complètement... je veux dire, il y a quelques années, on n'aurait pas imaginé ça. Maintenant, de voir le contraste là, vraiment de Lafrenière et Caco, il y en a un qui a élevé son jeu d'une manière phénoménale depuis quelques semaines, quelques mois. Puis l'autre, ben, tente de faire sa place dans la formation des Rangers, qui est quand même, oui, il y a beaucoup de profondeur, là, mais on parle quand même d'un haut choix de repêchage. Que c'est un investissement de l'organisation qui ne rapporte pas au bon moment. Ça, c'est quand même vraiment un contraste intéressant.
Mais il est pas le seul.
Les gars, Caco a retrouvé sa place dans cette série, mais c'est pas parce que Peter Laviolette s'ennuyait de Capo Caco, c'est simplement parce que les Rangers ont perdu Jimmy Vesey. Laviolette se retrouvait à devoir trancher entre Caco et Blake Wheeler. Pour l'instant, il opte pour Caco, étant donné qu'il est plus frais, qu'il a joué plus de matchs. Wheeler n'a pas joué depuis le mois de février, mais je ne serais pas surpris qu'on assiste à un autre changement. Puis tantôt, Nick, juste une petite parenthèse, tu disais Lafrenière probablement ne deviendra jamais un marqueur de 100 points. Tu as probablement raison, je dirais oui, mais cette saison, il cognait à la porte de 60. Il ne faut pas oublier que l'avantage numérique, Lafrenière, c'est des grenailles.
C'est ça.
Il touche à peine au jeu en supériorité numérique. Même cette semaine, le réputé Larry Brooks écrivait une chronique en disant « Est-ce que Laviolette va avoir le courage de toucher à son unité de 5 et sortir peut-être un Zibanejad ou un Kreider pour insérer Lafrenière? » On réclamait un plus grand temps de jeu pour Alexis Lafrenière. Donc, la journée où Lafrenière va avoir son bonbon en avantage numérique, je crois qu'une saison de 70 points et plus, c'est dans l'ordre du possible pour Lafrenière. Mais 100 points, c'est difficile. Là, on parle de l'élite. Il y a peut-être une dizaine de joueurs qui peuvent atteindre 100 points par saison.
Oui, puis tu dis 70 points, même plus, parce qu'on regarde cette année, Lafrenière, c'est 57 points, je crois, si je ne me trompe pas. Mais je pense qu'il en a seulement 4 en avantage numérique. Si tu regardes le premier avantage numérique des Rangers, c'est tous les joueurs, c'est entre 22 et 44 points. Le 44, c'est Panarin. Si on fait juste on coupe la pomme en deux, là, même au bas deux, là, si on veut, même au tiers, on ajoute une vingtaine de points, par exemple, à Lafrenière, à la saison de Lafrenière. Mais soudainement, on est à 77. Là, on n'est plus.
Ouais, on s'approche des
80. 100 points, quand je dis 100 points, c'est ça se peut qu'il atteigne les 90, 96. 100 points, c'est un beau plateau. Mais visiblement, le meilleur est à venir dans le cas de Lafrenière.
Absolument. Puis ce qu'il y a de fun dans le cas d'Alexis Lafrenière, pour connaître un petit peu le jeune homme, même chose pour Guillaume, c'est pas un moulin à parole. C'est pas celui qui est le plus confortable devant les médias. Même que les journalistes new-yorkais, des fois, quand ils me voient parler qu'Alexis, ils viennent me voir après l'entrevue pour me demander « Est-ce qu'il a été bon avec toi? Tu as réussi à l'avoir 5-6 minutes? » Je dis « Oui, je l'ai eu 5-6 minutes, mais j'ai peut-être posé 8-9 questions entre 5-6 minutes. » Donc, Alexis, peu importe la langue, français, anglais, pour l'instant, il s'exprime sur la glace. C'est ce qui est le plus important pour lui. C'est un atout très important pour les Rangers, mais le discours des coéquipiers change de plus en plus. Artemi Panarin, hier, on est quoi aujourd'hui? On est mardi. Donc, lundi, Artemi Panarin est en conférence de presse.
La réalité des séries éliminatoires. Tu sais
exact.
Plus,
exact. Jours, je ne connais plus les journées.
Puis tu regardes dehors pour être certain que tu es dans quelle ville.
Ah, je regarde, je vois le centre d'achat. Je vous confirme, je suis toujours à Sunrise. Mais Panarin est en conférence de presse avec Igor Shesterkin. Et devant des caméras, Panarin parle uniquement en russe. Donc, c'est un interprète qui nous faisait la traduction du russe à l'anglais. Puis il y a eu une question au sujet de Lafrenière, puis on a immédiatement vu son sourire. Sa réponse a été longue en disant « C'est vraiment agréable de voir son évolution, de voir toute son amélioration. » Puis Alexis n'arrête pas de dire qu'il est chanceux parce qu'il joue justement avec Panarin et qu'il joue avec Vincent Trocheck. Mais dans le discours de Panarin, qui est une superstar de la Ligue, lui aussi se considère chanceux de l'avoir comme ailier droit au sein de son trio. Donc ça change un peu. Puis après le dernier match, Vincent Trocheck, quand on lui demandait de décrire les deux buts de Lafrenière, c'était quand même cute de l'entendre dire qu'il dansait sur la glace et que sa rapidité était hallucinante à la dernière rencontre. Donc, c'est vraiment un joueur qui s'établit, pas encore comme une super étoile, mais une étoile de la Ligue nationale en devenir, disons.
Tu disais que Panarin ne parle pas anglais. Un autre joueur qui ne parle pas anglais, c'est Igor Shesterkin. On l'a vu hier quand il a dit qu'il ne parlait pas anglais.
Panarin parle anglais.
Mais oui, c'est ouais, ça. Tout le monde parle anglais. C'est ça. Ben ils parlent tous anglais. Mais c'est parce que Shesterkin a dit ça. Dit, je suis chanceux, je ne parle pas anglais parce qu'on lui avait demandé qu'est-ce que Matthew Tkachuk lui avait dit pour essayer de le sortir de son élément. Mais Shesterkin, c'est vraiment, vraiment. Je dirais bien, a dessus sur Sergei Bobrovsky depuis le début de cette série-là. Est-ce que les Rangers peuvent gagner un match sans Shesterkin à son summum quand ça compte?
Honnêtement, ce serait difficile. Tu regardes la troisième période du dernier match, là, c'était les Panthers mitraillaient le filet des Rangers. Ça n'avait aucun bon sens. Là. C'était des tentatives de tir à peu près aux 10, 15, 30 secondes. Shesterkin est demeuré solide, en confiance. C'est un gardien qui joue au-devant de son demi-cercle. Là. Ça, c'est un gardien qui est prêt à recevoir les rondelles. Là. C'est comme un défi pour les tireurs adverses. Amenez-la à votre rondelle, je suis là, puis je vais faire l'arrêt. Honnêtement, ça a été, jusqu'à maintenant, c'est celui qui a fait la différence dans cette série-là, surtout au troisième match. Là. Je pense qu'on s'en va même pas en prolongation si Shesterkin n'est pas devant le filet en troisième période. Ça a donné comme un petit boost aux Rangers de voir que le gardien était aussi solide là, puis de se dire bon ok, on a survécu à cette troisième-là, allons essayer de faire quelque chose en prolongation parce que honnêtement, là, on aurait dit que la glace était penchée du côté des Rangers dans ce match-là.
La glace était penchée, mais je me dis que les Panthers, depuis le début des séries, ont quand même l'expérience de jouer contre de bons gardiens. Au premier tour, c'était André Vasilevski. Ils ont réussi à battre Vasilevski. Au deuxième tour, Jeremy Swayman était aussi dominant que Shesterkin peut l'être et ils ont trouvé des solutions pour battre Swayman. On verra bien ce qui va se produire, mais Paul Maurice est toujours un entraîneur assez ingénieux. Et d'ailleurs, Maurice, coup de chapeau pour ses réponses avec les journalistes.
Toujours, oui.
Il est hilarant. Juste ce matin, petite anecdote, là, parlait de Sam Bennett qui ne prend pas de mise en jeu parce que Bennett revient d'une blessure, donc probablement qu'il cache encore quelques bobos. Puis au dernier match, il a seulement pris une mise en jeu. Puis quand un collègue de la Floride lui a demandé qu'est-ce qui se passait avec Bennett, il dit oui, il a juste pris une mise en jeu. Il l'a gagné en passant. Mais il dit c'est pas grave. Il dit il commence à l'aile, mais il revient tout de suite au centre. Puis il dit de toute façon, il dit regardez les mises en jeu. Il dit les juges de ligne sortent les centres à tout moment. Il dit t'as une barbe trop croche, on te sort. T'as une mauvaise haleine, on te sort. Tu bouges un peu trop, on te sort. Donc, c'était du bon Paul Maurice pour dévier un peu le sujet ce matin, mais c'est comme ça tous les jours avec lui.
On parle des Panthers. Un joueur qui se signale depuis le début des séries, mais même depuis deux saisons, mais qui est dans l'ombre, c'est vraiment Gustav Forsling. On parle toujours de Vlad de Montour, mais Forsling a un rôle très important. Surtout en début de saison, on se souvient, ça allait moins bien pour les Panthers parce qu'il manquait Ekblad, parce que Montour n'était pas là. C'est un des joueurs qui a été appelé à en donner plus. Tu lui as parlé quand même, Forsling. C'est une histoire intéressante parce que c'est un joueur qui n'a pas si longtemps que ça. Lui, il retournait en Europe, ça se dirigeait vers ça. Il avait besoin d'une nouvelle chance, d'une dernière chance là, dans la LNH.
Non, absolument. C'est quand j'ai fait mon entrevue avec Gustav Forsling dans le vestiaire de l'équipe adverse au Madison Square Garden, j'ai commencé en lui identifiant une date, 9 janvier 2021, savoir si ça pouvait sonner une cloche. Puis Forsling est immédiatement parti arrêt, puis dit oui, absolument, c'est la journée où je me fais réclamer par les Panthers de la Floride. Je reçois un appel de Bill Zito pour me mentionner que les Panthers, justement, ont décidé de parier sur lui. Cette journée-là, il était à Raleigh, puis ça n'a pas été long. Et avec sa conjointe, il a commencé à faire des boîtes. Immédiatement, il a conduit Raleigh jusqu'à Sunrise, avec en tête de se dire, bien, peut-être que je vais lancer ma carrière. La saison d'avant, il avait passé toute l'année avec les Checkers de Charlotte. Donc, Forsling, il y a un peu plus de 3 ans, n'était même pas capable de percer le top 7 à la ligne bleue des Hurricanes. Oui, les Hurricanes ont de bons défenseurs, mais c'est quand même toute une montée. Puis cette année, il a terminé l'année à un dossier quasiment aussi chaud que la Floride, plus 56. En série, il est encore un des défenseurs les plus dominants dans cette catégorie. Il joue avec Aaron Ekblad. Bill Zito vient de lui donner une prolongation de contrat de 8 ans. Donc, ça a été un très, très, très bon coup de la part du DG des Panthers. Ils ont vu quelque chose en Gustav Forsling. C'est pas le plus grand, c'est pas le plus gros, c'est pas le plus spectaculaire. Mais regardez-le jouer attentivement. Là. Il ne se fait pas prendre, il ne se fait pas pincer. Il a 9 points en 14 matchs depuis le début des séries, un dossier de plus 9. C'est pratiquement toujours lui le défenseur le plus utilisé, si ce n'est pas Ekblad ou Montour. C'est vraiment un élément crucial pour les Panthers de la Floride. Puis ce qu'il y a de plus beau, c'est qu'il a coûté absolument rien aux Panthers.
Puis Paul Maurice disait... Il disait en deuxième ronde, il avait dit « Gustav Forsling est le meilleur à ce qu'il sait faire. » C'est pas le meilleur patineur, c'est pas le défenseur le plus offensif, c'est pas le plus défensif, mais dans les contraintes de ce qu'il sait faire, ben il fait à la perfection. Donc, c'est un défenseur que les Panthers, je suis convaincu, aiment bien avoir sous la main là, dans ces séries-là.
Vous attendez à quoi? Bien évidemment, là, on n'a pas le match de ce soir, on ne sait pas exactement ce qui va se passer, mais je reviens à ce qu'on disait un peu plus tôt. Si l'égalité est créée ce soir, là, 2-2, quand je regarde le parcours en séries éliminatoires des Rangers contre les Hurricanes, où on ne méritait pas, à mon avis, cette série-là, on a réussi à aller la chercher en 6, mais ça a tout à été des matchs très serrés où, même si on n'était pas la meilleure équipe à 5 contre 5, on s'en tirait. Dans cette série-là, c'est la même chose aussi. Quand vous regardez tout ça, peu importe ce qui se passe ce soir, est-ce que ces performances-là des Rangers vous permettent de croire qu'ils sont capables d'aller chercher la Coupe Stanley? Cette, je veux pas dire carence, mais le fait qu'on n'est pas suffisamment bon à 5 contre 5 pour rivaliser à ce chapitre-là contre les Hurricanes et contre les Panthers.
Ben, pas suffisamment bon à 5 contre 5. En ce moment, ils ne sont pas suffisamment bons non plus en supériorité numérique, 0 en 8 depuis le début de la série. Mais les équipes, parfois, tu as le sentiment qu'ils sont sur une destinée, trouvent des façons de gagner. C'est un cliché, mais les Rangers le font. Il y a des héros inattendus. Là, présentement, c'est Barclay Goodrow. Goodrow a 6 buts depuis le début des séries. Je ne suis pas un grand mathématicien, là, mais 6 moins 4, c'est 2 de plus que toute la saison régulière. Il y avait 4 buts en 80 matchs, il y en a 6 présentement. Les Rangers, on le dit depuis le début, ils ont quand même une belle profondeur. On a beau dire que Shesterkin vient fausser les données, mais Shesterkin fait partie de l'équipe. Donc, c'est une équipe qui mène présentement sans l'apport de canon offensif. J'ai hâte de voir aussi du côté des Panthers, Matthew Tkachuk a été très bon au premier match, mais je trouve que depuis 2 rencontres, il est assez discret. On choisit de miser maintenant avec Barkov, Reinhardt et Carter Verhaeghe au sein du même trio. Si Matthew Tkachuk redevient le Matthew Tkachuk du premier match, les Panthers vont rebondir. Puis depuis le début, je pense que tout le monde s'attendait pour dire qu'on aura droit à une longue série. Je maintiens le cap, je m'attends aussi à une longue série entre les deux équipes.
Honnêtement, Matthew Tkachuk aussi, je l'avais trouvé discret dans la série contre les Bruins. Il n'avait pas eu un impact phénoménal dans cette série-là, non seulement au chapitre de la production, mais j'ai trouvé que c'était pas le joueur qui dérangeait autant là, qu'on l'a vu, disons, peut-être pas en finale l'an dernier, là, mais en finale dans le parcours des Panthers l'an dernier. Il avait été vraiment le joueur dérangeant, dominant offensivement, qui marquait les gros buts. Là, cette année, on dirait que c'est un petit peu plus tranquille. Je ne sais pas si la switch va finir par s'allumer à un moment ou à un autre. Mais
est-ce que ça cache quelque
chose? On a vu des flashs. J'allais dire, on a vu des flashs, cache... mais ouais.
Ouais, ça cache peut-être une blessure, quelque chose. Est-ce que.
Hein, ça se peut, hein, l'année passée, il est arrivé en finale, oui. Puis il y avait des morceaux de brisé un peu partout. Là, donc,
c'est
jamais en finale.
C'était le sternum, hein, si je me souviens bien, dans le cas de Ketchuk. Ça, c'est une blessure d'accident de voiture, un sternum.
C'était brutal, puis il continuait de jouer. Mais
c'est ça.
Le côté peut-être positif, il participe à tous les entraînements. S'il était à l'article de la mort, les Panthers lui feraient sauter quelques entraînements. Mais je partage l'avis de Guillaume. L'an passé, pour moi, Mathieu Tkachuk, si jamais les Panthers gagnaient cette finale de la Coupe Stanley contre les Golden Knights, était le gagnant du Conn Smythe. Mm-hmm. C'est un joueur absolument dominant du début à la fin des séries. On ne revoit pas le même effet, à mon humble avis, depuis le début des séries. Mais je parierais jamais non plus contre lui. C'est un gars qui a beaucoup de chiens, beaucoup de mordants, puis il peut revenir très rapidement dans cette série.
Les gars, je vous amène vers la finale de l'Ouest. On va. Guillaume, c'est. Toi, t'es... Bon, là, tu t'en vas sur la finale de l'Est, là, mais tu t'es rendu à Dallas à découvrir les premiers matchs de la série. On laisse le relais à nos correspondants anglophones pour la suite, mais parce que soyons francs, hein, Dallas Edmonton en avion, c'est pas. disons que c'est pas Québec-Montréal sur la 40. Hein, c'est...
Nick, j'ai une petite mention à faire là, à notre collègue caméraman de TVA Sports, Frédéric Thérien, qui, moi, alors que je m'en allais à Montréal dans un vol direct de 4 heures, lui devait se taper Dallas-Chicago, Chicago-Toronto. Toronto-Edmonton dans la même journée. C'était un itinéraire d'environ 20-22 heures, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est souffrant. Puis c'est
d'y aller à pied.
C'est un peu ce qu'on...
Il y a la caméra à transporter, parce que sinon, on va aller à pied. Là.
Non, mais il fait très chaud aussi à Dallas. Ça aurait peut-être été dangereux. Là. Il faisait 40 degrés la dernière journée. On a pris un taxi pour faire à peu près 4 coins de rue pour aller à l'aréna tellement il faisait chaud. Il n'y avait aucune chance qu'on marche parce qu'on serait arrivé trempé à l'aréna où il fait à peu près moins 35.
Ça, c'est parce que tu n'amènes pas tes gogoons comme GF sur la route.
Non, mais jour de match, je ne suis pas en gogoon.
Non!
Ça, on va fermer la parenthèse. Puis d'ailleurs, le bon Fred, caméraman à TVA, si on l'avait demandé de marcher Dallas Edmonton, Fred n'a pas les jambes de Guillaume Lepage aussi, donc la marche aurait été drôlement longue pour Fred. On le salue, faut dire en passant.
Il a mangé un immense sandwich, il aurait eu assez d'énergie. Un sandwich texan là, qui faisait à peu près 3 étages de haut. Il aurait eu assez d'énergie pour le faire, mais bon, il s'est rendu sain et sauf. On a vu qu'il était sur place hier à Edmonton, donc... Chapeau à lui.
Oui. Chapeau aussi à Jason Robertson qui a vraiment explosé hier avec un tour du chapeau lorsqu'il le fallait parce que très, très mauvais début de match des Stars pour un deuxième match de suite. Guillaume, tu vas pouvoir nous en parler plus tard, mais Jason Robertson avait pas des mauvaises séries statistiquement. 13 points en 15 matchs, c'était pas mauvais, mais seulement 3 buts, aucun dans ses 10 derniers matchs-là. Là, tu as Robertson qui, hein, on dit qu'un un marqueur de but, quand ça tombe, quand ça prend son rythme, là, on dit en streak, là, quand on pogne une bonne séquence, là, un marqueur de but, ça peut le lancer pour quelques matchs. Et là, tu as eu hier le retour de Rupe Hintz qui avait manqué toute la série jusqu'à présent. On le met sur le même trio, va chercher 2 passes. Rupe Hintz fait du Rupe Hintz, c'est-à-dire centre numéro 1 de l'équipe, peut jouer aussi bien dans sa zone que dans la zone adverse. Est-ce que, à votre avis, ce dénouement-là dans le troisième match, comment le vent a tourné d'un coup, le retour de Rupe Hintz, ça augure très mal pour les Oilers?
Ben, tu sais, j'irais peut-être pas jusque-là parce que honnêtement, après le premier match, je marchais avec des collègues d'Edmonton jusqu'à l'hôtel. Puis, tu sais, c'est... En série, là, c'est tout ou rien. Là. C'est toujours ils ont gagné. Puis là après le premier match, c'est comment je pense qu'on voit des éléments là, qui pourraient nous laisser croire qu'ils pourraient aller jusqu'à la coupe. Là, moi, dans ma tête, je le disais pas, mais j'étais comme OK, mais c'est un match, là, calmons-nous. C'est un match en prolongation en plus. là, je pense que, tu sais, je veux dire, oui, c'est une grosse victoire des Stars, surtout après le début de match que les Oilers ont offert. T'sais, on a vraiment résisté à la tempête de peine et de misère. Là. On a quand même accordé 2 buts dans cette période-là. Ça, t'sais, je pense pas, je crois pas vraiment au momentum de match, en série. Les joueurs le disent, puis au début, j'avais de la misère à le croire, mais là, plus tu couvres les séries, plus tu te rends compte que c'est rare que ça se transporte, puis que là, tout d'un coup, il y a un run marée, puis les Oilers vont se faire emporter, puis ça va être terminé en 5. C'est ma prédiction, mais j'irai pas jusque-là. Je pense que les Oilers peuvent rebondir de ça. Il y a quand même des choses qui fonctionnent bien. Mais les Stars, c'est certain, en allant chercher le premier match à Edmonton, devant une foule qui était vraiment bruyante, là, je pense qu'ils ont porté, disons, un coup imposant, pas un dur coup, mais tu sais, je veux dire, ça fait mal. Puis là, la pression est dans le camp des Oilers pour le match numéro 4. Je pense qu'ils peuvent se relever de ça, mais à suivre, comme tu dis, le réveil de Robertson, le retour de Rupien, ça peut être d'une grande aide pour les Stars.
Guillaume dit que ça fait mal, mais ce qui fait mal aussi, c'est le but que Stuart Skinner accorde.
Oui.
Le troisième, le tour du chapeau de Jason Robertson, c'est exactement le type de but qu'un gardien ne veut pas donner le 12 novembre, encore moins en finale de l'Ouest. Les Stars ont gagné ce match-là, puis on en parle aussi depuis longtemps, l'équilibre, la profondeur des Stars de Dallas, surtout à l'attaque, je trouve être beaucoup plus importante, imposante que celle des Oilers d'Edmonton. Puis le duel entre Jake Oettinger et Stuart Skinner, en théorie, avantage à Oettinger. Skinner a réussi contre les Canucks à revenir fort, match 6 et 7, après avoir vu quelques matchs au bout du banc. J'ai hâte de voir sa réponse au prochain match.
Mais c'est ma question. Est-ce qu'on va voir Calvin Pickard dans cette série, selon vous?
Honnêtement, le manque de constance de Stuart Skinner saute aux yeux. Là. Depuis mm-hmm. le début des séries, c'est arrivé. Maintenant, je pense que c'est... je suis dans les stats. 5 reprises qui a affiché un taux d'efficacité supérieur à 900 dans un match. Ça, c'est en 30 départs. Donc, tu sais... Avoir un gardien qui est en deçà de 900 pendant la majorité de tes matchs en série, c'est un miracle que tu réussisses à t'en sortir avec des victoires. Puis là, bon, les deux premiers matchs de la série, enfiler 2 performances en haut de 900, revient avec un 810, là, 4 buts sur 21 tirs hier, alors que son équipe avait le contrôle du match. Oui, je pense que c'est les Oilers en deuxième période ont été. Ils n'étaient vraiment pas à l'image des Oilers qu'on a vu en première. Là. C'est pas seulement la faute de Skinner, mais comme disait Jean-François, le but qu'il donne à Robertson, le but gagnant, ça peut pas rentrer. Puis je sais que ça a fait beaucoup jaser avec Henrik Lundqvist là, qui parle du fameux reverse VH depuis le début des séries. J'ai trouvé intéressant que Jason Robertson, après le match d'hier, a souligné que l'entraîneur des gardiens des Stars avait dit aux joueurs, regardez, si jamais vous êtes dans cette situation-là, Stuart Skinner colle la lame de son patin sur le poteau. Donc, ça laisse un petit espace supplémentaire où on peut glisser la rondelle comme Robertson le fait, au lieu de sceller le bas du filet avec le bout de sa jambière. Donc, il colle le patin au lieu du bout de la jambière. Ça laisse une petite ouverture, puis Robertson en a profité. C'est quand même intéressant de voir à quel point, on en parle beaucoup là, en série, tout est suranalysé, puis on connaît chaque petite faiblesse de l'adversaire. Puis pour Stuart Skinner, c'est peut-être pas la seule faiblesse, mais celle-là, on l'avait soulignée. Puis Robertson en a profité. Donc je trouvais ça vraiment intéressant.
Mais justement, là, t'es l'entraîneur des gardiens des Oilers. Tu fais quoi avec ça? Parce que là, l'autre équipe est au courant. Tu viens de te faire marquer un but qui te fait extrêmement mal de cette façon-là. Mais tu fais quoi? Tu peux pas rentrer dans la tête de Skinner et dire on va changer toute ta posture là à l'aube du quatrième match des séries. Tu peux pas faire ça, là?
Tu croises les doigts pour que la situation se présente pas trop souvent. Honnêtement, ben, tu sais, c'est tellement un jeu. C'est rare que ça arrive, là, on s'entend, là, que le joueur soit seul à l'embouchure du filet comme Robertson l'était hier. Mais c'est certain que tu peux pas arriver. Puis, surtout que tu sais, Skinner, je pense pas qu'il y a la confiance dans le tapis en ce moment. Là. Ça a été desserré en dents de scie. Je pense pas que tu peux arriver et puis lui dire « Bon, OK, on va changer ci et ça à l'aube d'un match aussi important que le quatrième match dans cette série-là. » Donc est-ce qu'on y va avec Pickard? Est-ce qu'on croise les doigts et on renvoie Skinner dans le filet? Ça va être à Chris Knobloch de prendre les décisions importantes. Puis jusqu'à maintenant, il a eu la main heureuse avec ces décisions-là. Donc, voyons voir ce qu'il va faire pour la suite.
Mais pour revenir au but contre Skinner, je regardais le match de ma chambre d'hôtel sur les ondes de TNT. Ça donnait de la bonne TV aussi. Il y avait Henrik Lundqvist qui disait effectivement qu'il y avait un problème dans son positionnement. Lundqvist disait qu'il devait descendre aussi son blocker plus bas pour couvrir justement le poteau. Il y avait Wayne Gretzky qui regardait à côté en riant, qui disait « Quoi qu'il ne reste pas debout? » Il disait « À mon époque, les gardiens, il y avait le droit de rester debout. » Puis il dit « S'il est debout là-dessus, il n'y a rien qui passe. »
Donc, t'avais deux visions. Ça, là,
mais... Non, mais Lundqvist était tellement poli aussi dans sa réplique, parce qu'il doit quand même répondre à Wayne Gretzky, le plus grand peut-être de l'histoire. Mais dans sa réponse, tu voyais qu'il lui disait ben, « Peut-être que Wayne ne t'a jamais joué non plus comme gardien, donc je vais pas de répondre à cette question. »
Oui, j'ai écouté quelques matchs à TNT. Ils sont bons, les gars, parce que tu as justement d'un côté Lundqvist qui est un gardien légendaire. Tu as Wayne Gretzky, il parle pas très fort, il reste calme, mais quand il parle, tout le monde écoute, puis il y a des bonnes histoires. Tu as Paul Bissonnette au centre qui a joué 10 minutes dans la Ligue nationale de hockey, mais qui est divertissant. Puis Bissonnette est habitué.
Tenson Carter, souvent.
Tenson Carter qui est bon. Liam Hughes, je pense, l'animateur qui fait un bon travail. Mais c'est que tu as Bissonnette qui est habitué de parler, puis chialer sur son podcast, Putting Checklist, puis tout ça, puis sur Twitter, puis... Mais là, il se fait ramasser par Wayne Gretzky. Hier, Gretzky l'a ramassé. Je me souviens plus. Ah, il a dit...
C'est pour le chandail de... Il disait que son joueur... Que s'il voulait un chandail des Rangers, il prendrait Shesterkin. Puis Wayne Gretzky lui a dit... C'est-tu parce que vous êtes à égalité au niveau des buts dans la Ligue nationale?
Donc, il y a une dynamique qui est vraiment intéressante avec des gros noms. C'est un bon spectacle, les voir aller. Les gars, ben, je vous demande, après tout ce qu'on vient de dire dans cette série-là, votre prédiction pour ce match 4-là?
Ben, moi, je vais y aller avec les Oilers Edmonton. À Edmonton, logiquement, les Oilers n'ont pas le choix d'en gagner au moins une en Alberta. L'énergie de la foule, revenir, vouloir oublier rapidement cette défaite difficile-là où il naît quand même 2-0 après une période. Mauvais but de Skinner, comme on disait. McDavid a été très bon dans le troisième match, mais McDavid peut être encore très, très bon dans le quatrième. Même chose pour Leon. Donc, non, je crois qu'Edmonton peut revenir à égalité 2-2.
Oh ouais.
Maintenant qu'on dit ça, ça va être 3-1 Dallas, mais vas-y, Guillaume.
Ben, moi, ma prédiction, hein, je vous le rappelle, Dallas en 5. Donc, théoriquement, il faudrait que je dise que les Oilers ne se remettront pas de ça, mais... J'ai aussi l'impression qu'ils vont être capables d'aller en chercher une à Edmonton. De la façon qu'ils jouent depuis le début de la série, je y allais avec Dallas en 5 parce que je me disais, bon, défensivement, les Oilers, c'est toujours un point d'interrogation, le gardien et tout ça. Mais dans les premiers matchs, là, on a gagné. Ben, le premier match, on l'a gagné avec le désavantage numérique. Là. Les Oilers ont écoulé 5 punitions dans ce match-là. Donc, on est capable, on parlait des différents moyens de gagner. Les Oilers sont capables d'en trouver. Ce n'est pas les Oilers des années passées qui gagnent par des festivals offensifs puis qui gagnent en marquant 8 buts par match.
Et défensivement, cette année, leur fiche défensive, les Oilers, elle est très bonne.
Ah ouais.
Le seul problème a été devant les filets. Jack Campbell, Stuart Skinner, ici et là, que... On dirait qu'il était du mauvais côté des fois. Il regardait à baie vitrée, non pas la rondelle qui s'en venait. Mais donc si on l'a vu dans le début de la série, défensivement, c'est ça, on joue bien. Là, mais tu parlais de point d'interrogation, mais on joue bien. C'est juste que des fois, il y a une faille devant le filet.
Oui, exact. Puis je parlais avec des collègues d'Edmonton à Dallas. Puis ils disaient, Stuart Skinner, c'est le genre de gardien qui est une sorte de réplique de la tenue de l'équipe devant lui. Donc, si les Oilers sont bons, il va être bon. Si les Oilers sont pas bons, il va pas te sauver. Bon, je pense qu'on l'a vu dans la deuxième période hier. C'est à ce moment-là que tu as besoin d'une période comme Jake Oettinger a livré en première période du match numéro 2 avec ses 12 arrêts, je pense, ou 13 arrêts. Tu as besoin que ton gardien se lève quand l'équipe fait un petit pas de recul ou un petit ralentissement. Puis Stuart Skinner s'adapte au niveau de l'équipe. Là, tu sais, je veux dire, c'est un gardien qui est là pour faire les arrêts quand ils sont bons, mais quand il y a des revirements et tout ça, ben il n'est pas nécessairement là pour sauver son équipe, pour faire les gros arrêts importants. Donc, T'sais, à la longue, je pense que rendu dans le carré d'as comme ça, ça peut vraiment faire mal à une équipe. Puis on en a eu la preuve hier. Mais cela dit, je crois toujours aux chances des Oilers de revenir dans cette série-là.
Donc, match 4 Oilers?
Allons-y comme ça.
Hey, je vais y aller pour Dallas, moi. Mais là, Guillaume, oh. J'y vais Dallas, 3-1 Dallas. Ben, c'est bon. Depuis le début de la saison, je les ai en finale, donc je garde là-dessus.
Bon.
Mais là, ce que je te demande, Guillaume, est-ce que les gens du Québec... Bon, on peut encourager les Oilers s'ils veulent des Québécois, Vincent Desharnais qui est là. Mais là, chez les Stars, il y a un quart de Québécois, demi-Québécois, ou en tout cas... Puis là, je suis pas en train de parler de Maverick Book et Rémi Poirier, le gardien, qui sont dans les Black Aces. Mais Wyatt Johnston, tu y as parlé, a des racines québécoises, parle français. Raconte-moi un peu là, d'où ça lui vient, tout ça.
Oui, ben c'est ça. J'avais vu une entrevue à TVA Sport pendant la première ronde à quelques heures du match numéro 7. Ah, d'ailleurs, on n'a pas intermède. Les deux gardiens dans cette série-là, les Stars et les Oilers, les deux gardiens parlent le matin de match. Je sais qu'on n'en avait pas parlé dans ce podcast. Je fais juste le souligner pour l'ami Chaumont. Mais bon, pour revenir à Wyatt Johnston, il parle. On lui a parlé justement, je pense que c'était à TVA Sport, à quelques heures du match numéro 7 contre les Golden Knights.
Je pense qu'il avait creusé cette pépite, trouvé cette pépite-là.
Exact, parce que... Ça a commencé dans le vestiaire. Wyatt Johnston a dit bonjour au gars de TVA Sport. Puis c'est à ce moment-là qu'ils ont comme se sont informés. Tu parles-tu français? Penses-tu que tu pourrais faire une entrevue? Puis il a accepté d'y aller comme ça à quelques heures du match numéro 7. Donc, quand je suis arrivé dans le vestiaire des Stars, je pense que c'était au lendemain du premier match. Wyatt était là, il n'y avait personne autour. Donc, je suis allé m'asseoir avec. Puis je lui ai demandé, tu sais, ça venait d'où? Sa mère a grandi dans le coin de Mont-Saint-Hilaire. Elle a grandi en anglais. Ouais. Elle a grandi en anglais, mais je veux dire, Mont-Saint-Hilaire, c'est pas si loin de Montréal, puis c'est pas nécessairement une ville où.
C'est français pas mal. C'est français pas mal, Mont-Saint-Hilaire. Là.
Donc, pour se débrouiller,
Otterburn Park est pas très loin. Ça parle peut-être anglais à Otterburn Park en raison du nom, là, mais pour le reste.
À Otterburn Park.
Ah ouais, exactement.
Mais
tu connais pas, hein?
Otterburn. Ah non, je connais. C'était juste la prononciation française de Otterburn.
Oui, mais ça, écoute, moi, j'ai été élevé là-dedans. Là, c'est Otterburn Park. C'est le long de la Richelieu River. Là, c'est...
Non, mais c'est ça. Mais tout ça pour dire que la mère de Wyatt Johnston a grandi en anglais à la maison, mais elle est complètement bilingue, comme ses trois frères et sœurs, je crois, que Wyatt me disait. Puis elle tenait, une fois que ses enfants étaient en âge d'aller à l'école, elle tenait à ce qu'ils fassent l'immersion en français, même s'ils étaient dans la région de Toronto. Parce que pour elle, c'est important que ses enfants connaissent une deuxième langue, connaissent le français, puis puissent communiquer avec elle dans cette langue-là. Puis Johnston, c'est ça, fait l'immersion française. Donc, toutes ses matières étaient en français là, de la première à la huitième année là, que ça fonctionne en Ontario.
C'est un bon défi, quand même, là, de faire de l'immersion aussi longtemps. Là.
Ouais. Ouais, moi, j'avais fait une demi-année en anglais en sixième année. Là. Ouais, lui, c'était de la première à la huitième année en français. Donc, c'est certain que ça laisse des traces. Ça reste en tête. Mais il me disait, tu sais, au Texas, c'est difficile de pratiquer le français un petit peu. Mais on a confirmé avec Maverick Bourque. Des fois, il s'essaye en français avec Maverick depuis qu'il est revenu avec l'équipe là, il y a quelques semaines. Avec nous, les médias, je pense que je le voyais hier dans le vestiaire, a fait une mêlée de presse avec les collègues de RDS et de TVA Sport en français aussi. Donc, il pratique, puis il disait sa mère est fière, ses frères et sœurs sont impressionnés parce qu'eux aussi l'ont fait, l'immersion française, mais ils se verraient pas aller donner des entrevues en direct là, à la télévision dans cette langue-là. Donc, c'est quand même un parcours intéressant, Wyatt Johnston, super sympathique. Tu vois que ça ne dérange pas de casser un peu son français pour nous donner du bon contenu. Puis c'est ce qu'il a fait dans cette série-là. On le remercie pour sa générosité. C'était très apprécié.
Donne pas juste du bon contenu, donne aussi du bon hockey à son
équipe. Oui, effectivement. Non, c'est ça.
Non.
Non,
lui, il est à surveiller pour les prochaines années là, parce que ça se déroule très bien. Messieurs, avant de. On quitte un peu ce qui se passe dans ces éliminatoires. On vient, il y a une nouvelle qui vient tout juste de tomber. La rumeur se passait depuis quelques jours, mais Don Waddell vient d'être embauché comme directeur général des Blue Jackets de Columbus. Vous pensez quoi de cette embauche-là? Est-ce que c'est l'homme pour relancer cette concession-là qui peine à gagner des matchs depuis qu'elle est dans la LNH depuis 2000? Je pense qu'on a gagné une fois une série. On a atteint la deuxième ronde. Là, donc, Waddell a fait du travail magistral avec les Hurricanes de Caroline. Est-ce que c'est l'homme de la situation pour relancer cette équipe-là?
L'homme de la situation, on aura une meilleure réponse dans quelques années, mais je trouve que c'est un bon choix, c'est un bon candidat. Est-ce que c'est deux marchés qui se ressemblent? On ne parle quand même pas des plus gros marchés de hockey aux États-Unis. Waddell a réussi à tirer les bonnes ficelles avec une équipe où c'était pas toujours facile non plus. Il y avait peu de stabilité à l'époque avec les Hurricanes de la Caroline. Il a fait de cette équipe une équipe qui participe aux séries année après année. Part à Columbus, mais il arrive peut-être à Columbus au bon moment aussi. Les Blue Jackets, c'est un bon noyau de jeunes joueurs. C'est une équipe qui, théoriquement, va partir plus vers le haut que vers le bas. Donc, c'est une embauche intéressante. Mais moi, ma première pensée, c'est surtout Pascal Vincent. Mm-hmm. Qu'est-ce qui va advenir de Pascal Vincent? Est-ce qu'il peut rester l'homme de confiance de Don Waddell? Probablement que les deux vont s'asseoir, vont discuter. On connaîtra la réponse dans quelques jours ou quelques semaines.
Oui, exactement. Un des premiers dossiers aussi de Waddell va être Patrick Laine, à mon avis. Là. On sait, Laine n'a pas terminé la saison, a été sur le programme d'aide. Ça n'a jamais tant levé pour Laine à Columbus. Est-ce qu'un changement d'air à nouveau après Winnipeg, c'est ce qui s'impose? Qu'est-ce qu'on peut obtenir aussi pour Laine? On connaît le talent du gars, mais c'est son niveau d'implication, son niveau d'intensité, son niveau de concentration éthique. De travail, ne veut pas qu'il parfois est au sommet puis parfois est au plus bas. Je pense que ça va être le premier gros dossier. Puis après ça, ben, c'est vraiment de donner, je pense, de la culture de cette. Tu sais, cette équipe-là, les Blue Jackets, quand John Tortorella est parti, il y a eu une cassure, je pense, au niveau de la culture de travail. Brad Larson, ça n'a pas bien été. Jarmo Kekalainen, comme directeur général, s'est fait montrer la porte durant la saison. Là, on a John Davidson, qui est un très expérimenté homme de hockey au deuxième étage. On a des bonnes pièces en haut. On a certaines pièces très intéressantes au niveau jeunesse sur la glace. Comme tu dis, est-ce que ce que Pascal Vincent est en mesure de faire cette année? On sait, Vincent, cette année, quand même, a sorti la palette. Hein, un bon coup de palette là, a été quand même assez dur avec ses joueurs pour essayer de ramener, comme Tortorella faisait, là, dans le fond. Là, donc, c'est pas.
Ben, je pense qu'il voulait placer son empreinte au sein de l'équipe.
Exactement.
Il est arrivé avec des directives, des lignes de pensée. On veut rentrer dans les rangs. Puis oui, tu as raison, Nick, il envoyait le message à des vétérans. Mais moi, si tu regardes les Blue Jackets de Columbus, je pense surtout à Adam Fantilli. Il y a Gavin Brindley comme jeune joueur. À la ligne bleue, David Yerichek, Denton Matichuk, Corson Coolemans.
Le joueur qu'on va repêcher cette année. Là.
Oui, il y a encore un gros, gros choix au repêchage. Jordan Dumais est un point d'interrogation, mais Dumais, quand il est dans un bon état d'esprit, peut avoir des chiffres offensifs. Donc, j'ai hâte de voir. Le potentiel à Columbus est présent. Les Blue Jackets veulent être sérieux avec l'embauche de Waddell, mais ça démontre aussi que du côté de la Caroline, c'est peut-être l'ambiance est difficile. Mm-hmm. Il y a certains joueurs qui veulent sortir de la Caroline en ce moment. Donc, peut-être que Waddell quitte le navire au bon moment.
Mais c'est quand même assez surprenant. On l'avait dit là, dans les derniers épisodes que les Waddell, que les Hurricanes allaient peut-être avoir, pas un creux de vague, là, mais il y a des changements qui s'en venaient au niveau de l'effectif en raison des joueurs autonomes, des nombreux joueurs autonomes qu'on a. Disons que le directeur général qui va être embauché va avoir quand même beaucoup de pain sur la planche en Caroline. Bon, ça, c'est un directeur général. Il y a trois entraîneurs qui se sont fait confirmer, là, ont été embauchés dans les dernières semaines. Rapidement, Scott Arniel à Winnipeg, c'est une promotion, était déjà entraîneur associé. C'est quand même un gars qui a roulé sa bosse, qui a été brièvement entraîneur à Buffalo comme entraîneur-chef. Lui, en gros, ce qu'on lui dit, c'est « Tiens, il veut une Porsche. C'est pas une Ferrari, c'est une Porsche. Essaye de ne pas l'envoyer dans le clos. Hein? T'as une bonne équipe à ta main. Fais juste poursuivre ce que Rick Bowness a fait. » La suite, par contre, des deux autres, c'est ce matin que ça a été confirmé. Dan Bylsma est de retour dans la Ligue nationale de hockey. avec le Kraken de Seattle, donc va diriger. Il était déjà à la tête du club école du Kraken, et même présentement en finale d'association dans la Ligue américaine avec les Firebirds de Coachella Valley. C'est correct la prononciation en anglais, Guillaume?
Valley.
C'était Valley, OK, bon. Coachella Valley. Le festival de musique, c'est là ou c'est pas là? Je sais pas.
Ouais, c'est là.
C'est là. Bon, parfait. Donc, une place de party. Mais donc une promotion. Et ce qui est intéressant de Basma, c'est quand même un entraîneur qui a mené les Pingouins de la Coupe en finale de la Coupe Stanley à deux reprises en 2018-2019. Je me souviendrai, avait pris la relève de Michel Therrien. A gagné le Jack Adams en 2010-2011. Ça se termine chez les Pingouins. Bref passage du côté des Sabres. Et ensuite, la traversée du désert, seulement des postes d'adjoints à Détroit, entre autres, dans la Ligue américaine de hockey. On le sait, dans la Ligue nationale de hockey, il y a tout le temps le carrousel des entraîneurs. Quand tu as gagné la Coupe cette année, si tu n'es pas Jean Perron, normalement, tu as droit à plusieurs autres appels par la suite. Non, mais c'est vrai, je dis Perron, ça a été bref avec les Nordiques, puis ça a été tout. Mais Basma a eu une traversée du désert dans son cas. Donc, à mon avis, on a un entraîneur qui est affamé.
J'aime beaucoup l'embauche de Ron Francis, puis on pige dans sa propre cour avec le Kraken. Mm-hmm. Même s'il y a plusieurs gros noms sur le marché, on récompense l'entraîneur qui a gagné dans la Ligue américaine à Coachella Valley. Cette année, les Firebirds sont toujours en vie, donc en finale d'association au moment où on se parle. Puis, Basma, à l'époque, c'était le jeune entraîneur, 2009, sa première année, gagne la Coupe Stanley avec Crosby, avec Malkin, avec Fleury, avec le temps. On dirait que c'était la nouvelle merveille du monde. Là. L'entraîneur américain, il était donc bon, il était parfait. Mais la débarque a été rapide aussi après Pittsburgh. Buffalo n'a jamais été capable de faire des Sabres une équipe gagnante. Puis tu le disais tantôt.
À sa défense, il n'est pas le seul, par contre.
Non, il y en a 58 qui n'ont pas encore réussi cette mission-là. après ça, il a choisi d'être adjoint avec les Red Wings de Détroit pendant 3 ans avec Jeff Blashill. Donc, c'est un entraîneur qui a probablement eu la modestie de faire le pas de recul, de regarder où en était sa carrière, d'accepter de partir dans la Ligue américaine pour finalement mieux avancer plusieurs années plus tard. Puis c'est quand même un poste intéressant. Là. Il n'y a pas longtemps, le Kraken de Seattle, il a, à sa deuxième année d'existence, avait quand même réussi à surprendre tout le monde en participant aux séries. Puis c'est un coach qui connaît tout le monde aussi au sein de l'organisation. Donc pour moi, c'est une belle embauche, celle de Ron Francis avec Dan Bysma.
Est-ce que c'est assez pour amener le Kraken en série l'année prochaine?
Va être difficile.
Bonne question, ouais. Là, tu sais, c'est un entraîneur, mais c'est pas lui qui va jouer sur la patinoire.
Mais si on avait posé la même question des Canucks de Vancouver à pareille date l'an passé en parlant de Rick Tocchet, on aurait probablement dit que non, Tocchet.
J'aurais dit oui, moi.
Canucks avaient connu une bonne fin de saison.
OK, on passe au prochain coup.
On va attendre de voir le début de saison, puis on s'en parlera.
Va voir sur le site de l'NH, dans mes prédictions, je les ai en série, les Canucks, cette année. finalement, une autre équipe qu'on avait tous en séries éliminatoires cette année, les Devils, bien évidemment, ça a été la catastrophe. Et là, Sheldon Keefe qui quitte une catastrophe pour une autre. Alors, terminer les Maple Leafs de Toronto, ben quoi, c'est vrai, Guillaume, arrête de rire, c'était ça une catastrophe cette année à Toronto. Et qui s'en va chez les Devils. A pas eu à attendre très longtemps. Sheldon Keefe, visiblement, malgré ce qui s'est passé à Toronto, les insuccès en séries éliminatoires, parce qu'en saison... Quoi, Keefe est un des meilleurs entraîneurs au pourcentage de victoires de l'histoire des Maple Leafs, mais en séries éliminatoires, c'est une autre histoire. Il n'a pas eu à attendre longtemps. Il a accepté l'offre mardi dernier, a été confirmé cette semaine, conférence de presse, tout ça. Quand on regarde ce que les Devils ont été capables de faire l'an dernier, quand on regarde ce que dans cette équipe-là, est-ce qu'on vient un peu, Sheldon Keefe vient un peu de toucher le gros lot en matière d'équipe amenée à bon port?
Ouais, puis je pense que c'est un bon entraîneur qui va être capable de prendre les jeunes joueurs de cette équipe-là puis les amener à un niveau qui va permettre aux Devils de participer aux séries éliminatoires parce que il a quand même fait ses preuves avec les Maple Leafs. Tu le disais, en saison régulière, ça a bien été. Je pense que on peut pas analyser le rendement d'un entraîneur basé sur ce que les Leafs sont en série. Parce que ça a été c'est l'histoire des Maple Leafs, de ce noyau de joueurs-là depuis tellement longtemps que là, on essaie d'amener des entraîneurs qui vont essayer, qui vont pouvoir les amener à un autre niveau, mais ça, ça n'a pas fonctionné avec Sheldon Keefe, puis ça a été le cas pour d'autres entraîneurs avant lui. Mais là, il arrive au New Jersey avec un jeune noyau. On a beaucoup vanté ses habiletés de communicateur, ses habiletés de t'sais, il connaît bien ses joueurs, il a une bonne relation avec eux. Je pense que pour un noyau aussi jeune, qui est de la nouvelle génération, ça va être un entraîneur qui va fitter parfaitement avec ce groupe-là. Ce qui peut-être, avec Lindy Ruff, ça a fonctionné pendant un certain temps. Je sais que bon, il avait raffiné peut-être ses techniques depuis le temps, là, Lindy Ruff, mais c'est certain qu'avec un groupe de jeunes comme ça, d'y aller avec peut-être une plus vieille approche, des techniques plus dures, peut-être qu'à la longue, ça s'effrite plus rapidement. Avec un Sheldon Keefe qui est un entraîneur de la nouvelle génération, ben, je pense que c'est un bon fit pour cette équipe-là. Puis comme tu disais, ben, il tombe dans une équipe où, je veux dire, on fait juste être en ascension. Là. Il y a eu cette année, ça a été un pas de recul. On n'a pas participé aux séries, mais tu regardais la manière dont les Devils jouaient en séries éliminatoires l'année dernière, puis tu pouvais voir que cette équipe-là, d'ici quelques années, va être une équipe qui va se tailler régulièrement une place en série.
Mais au final... Ils gagnent le gros lot, les gars. Je regarde le top 6 des Devils, là. Jack Hughes au centre de Timo Meier, Jesper Bratt, Nico Hischier au centre d'André Palat, Dawson Mercer, Alexander Holtz comme 7e attaquant, puis à la ligne bleue, tu as Luke Hughes, Simon Nemec, qui sont tout jeunes, Dougie Hamilton qui devrait être en santé, et en plus, Sheldon Keefe, dans le pitch de vente des Devils du New Jersey, on lui a dit qu'on aurait du renfort à position de gardien.
C'est ça la question.
Donc, mais j'allais dire aussi, ironiquement, Keefe serait en territoire connu avec des gardiens moyens. Disons qu'il a réussi à jongler avec ça longtemps à Toronto.
Il pourrait ramener Samsonov après tout.
Là, c'est présentement Jake Allen avec Akira Schmid, Nico Daz. Mais je crois qu'on va piger ailleurs. On va aller chercher, sans aucun doute, du renfort. On va trouver un moyen.
Oui, effectivement. Hey, messieurs, merci beaucoup d'avoir été au balado, sur le balado cette semaine.
Ça fait plaisir.
JF, on te laisse aller te prélasser. Toi, tu dois avoir une piscine à ton hôtel. Là. Tu vas aller te la couper.
Même pas. Non, il y a une terrasse sur le toit. Mais ce qui est le fun, c'est que sur le toit, au lieu de faire 38, il en fait 44. Donc, t'évites un peu plus le toit.
Donc, toi, c'est une après-midi soap opéra sur la télé en faisant une petite sieste.
Non. J'ai des textes à préparer avec un des anciens grands de l'histoire du Canadien, Eric Gustafsson, et un des anciens grands des voltigeurs de Drummondville, Dmitri Koulikov. Donc, dans les prochaines heures, prochains jours, sur le site de lnh.com.
Et Guillaume, ben toi, tu t'envoles vers New York demain pour couvrir la suite de la série.
Donc on m'amène en relève dans la série dans l'Est.
Comme à la lutte. Comme à la lutte, un tag.
Je jette, ouais.
Alors, on va pouvoir lire tout ça sur le site de lnh.com. Puis bien évidemment, comme je disais plus tôt, nos correspondants anglophones, bon, tous leurs textes, on vous traduit ça. Et vous pouvez lire tout sur lnh.com. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux, LNH sur Facebook, LNH barre de soulignement FR sur X sur Instagram, sur Threads aussi. Et comme je disais plus tôt, ben, si vous voulez pas manquer le prochain balado qui va être avant la finale de la Coupe cette année, donc qui va être l'aperçu de la finale qui va s'amorcer. Écoute, la saison est tellement longue, j'ai goût de dire fin août, là, mais ça devrait être début juillet.
On va souhaiter le plus rapidement possible.
Oui, exactement. Pour pas avoir quand même, soyons francs, on regarde l'horaire, là. Le match numéro 7 de la finale pourrait être le 24 juin en pleine Saint-Jean-Baptiste. Ce serait, pour nous tous, là, au Québec, ce serait un peu catastrophique. Il va falloir payer de l'over du côté de la job. Donc,
À bientôt, messieurs.
Donc, c'est ça. Donc, merci d'avoir été là aujourd'hui, chers auditeurs. Merci d'avoir été à l'écoute et on se reparle très bientôt.